Dans l'actualité de ce matin, aussi cette énigme, une énigme qui dure depuis ce 1er octobre où le corps de Stevan Marković, un Yougoslave de 31 ans, était découvert, ficelé dans un sac à Elancourt dans les Yvelines. Marković, c'était le secrétaire, c'était la doublure de l'un des playboys du cinéma français, Alain Delon.
Bonsoir, quand un fait divers fait trembler la République, quand un ancien Premier ministre, Georges Pompidou, se retrouve submergé par un torrent de boue et des rumeurs nauséabondes, quand une star française, Alain Delon, voit son nom cité dans un crime crapuleux et qu'une partie du showbiz défile dans le bureau du juge. 50 ans après, l'affaire Marković, du nom de Stevan Marković, un petit voyou yougoslave assassiné à l'automne 1968 près de Paris, cette affaire suscite toujours supputations, interrogations, interprétations. Aujourd'hui encore, elle se présente comme l'un des dossiers criminels les plus opaques, les plus tordus, pourrait-on dire, jamais traités par la police et la justice française. Une longue enquête derrière laquelle se profilent des hommes politiques, des figures de la pègre et des agents des services secrets. À qui devait profiter la mort de Stevan Marković, homme de main et homme à tout faire? Qui l'a tué et surtout pourquoi? Avec nos invités, nous allons ce soir remonter le fil de l'affaire Marković, suivre les méandres les plus sombres de cette histoire qui n'a livré à ce jour qu'une part infime de ses secrets.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Marković, la mort d'un voyou de second plan qui va transformer en scandale d'État, affaire qui commence à l'automne 1968 dans une décharge publique des Yvelines. Ce 1er octobre 1968, alors que le jour vient à peine de se lever, un ferrailleur arpente la cavée du roi. Une ancienne carrière d'Elancourt reconvertie en un terrain vague qui sert de dépotoir à toutes les communes du secteur. L'homme est venu en camionnette récupérer des métaux, mais son œil est attiré par un étrange paquet balancé dans une cavité et resté accroché à des buissons. Une forme enveloppée dans une housse en plastique et une autre en toile de jute. Le ferrailleur a un désagréable pressentiment. Confirmé dès l'ouverture du paquet, à l'intérieur, le corps d'un homme en costume sombre, la tête ensanglantée. La police judiciaire de Versailles est rapidement sur place. Le commissaire Jean Sanson n'a pas de difficulté à établir l'identité de la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'un certain Stevan Marković, 31 ans, célibataire, réfugié politique depuis 10 ans en France et bien connu des tribunaux. C'est un délinquant notoire, un homme de main, sans envergure, plusieurs fois condamné pour des vols, des violences, de menus escroqueries. De toute évidence, il s'est retrouvé dans une combine qui est allée trop loin. Il a payé de sa vie ses mauvaises fréquentations. Seul détail particulier qui retient l'attention, Stevan Marković est domicilié au numéro 22 de la rue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris, l'hôtel particulier de l'acteur Alain Delon, dont il est le secrétaire particulier. L'enquête ne fait que commencer. Rien n'annonce que ce règlement de compte va bientôt être un cataclysme. L'autopsie indique que la mort remonte sans doute à la nuit du 22 au 23 septembre. Les légistes concluent très rapidement que Marković a succombé à des coups donnés à l'arrière du crâne, sans doute avec ce qui ressemble à un cendrier. Les policiers sont circonspects. Ils s'étonnent que la victime, athlétique, jeune, sportive, ait pu succomber à de simples coups. Ils s'interrogent encore sur l'absence d'analyse toxicologique. À leurs yeux, le rapport d'autopsie est bâclé, incomplet. Il leur faudra 3 semaines pour que les docteurs Lecoeur et Bailly de l'Institut médico-légal de Paris établissent que Marković a été tué par une balle de calibre 6.35 visible après une simple radiographie, un calibre couramment utilisé dans le milieu. La mort de l'intéressé ainsi présentée est beaucoup plus conforme à sa réputation. Les policiers apprennent très vite que Stevan Marković a été vu vivant pour la dernière fois le 22 septembre vers 19h devant l'hôtel particulier de l'avenue de Messine. Il a embarqué dans un taxi où se trouvait déjà un passager, direction le quartier de Montmartre. Alain Delon va évidemment être entendu, premier soubresaut d'une déflagration qui ne va cesser de s'amplifier. Marković va être présenté comme un homme qu'il fallait à tout prix empêcher de parler. Le 8 octobre 1968, l'inspecteur du SRPJ de Versailles, Maurice Amar, est à Saint-Tropez pour y interroger Alain Delon. L'acteur est alors en plein tournage du film La Piscine de Jacques Doré avec Romy Schneider comme partenaire. Il ne fait aucune difficulté à répondre aux policiers et n'élude aucune question. Il reconnaît que Stevan Markovic faisait partie de ses amis, un délinquant qui l'avait aidé à sortir de prison et remis sur le droit chemin. Pour éviter qu'il ne retourne derrière les murs de la santé, il lui avait même trouvé un travail de secrétaire particulier et d'homme à tout faire. Il lui avait également procuré un logement. Fin août, leur relation s'était assombrie. L'acteur avait été informé d'une liaison entre Markovic et son épouse Nathalie, avec qui il était en instance de divorce. On s'est disputé avec Stevan. Je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, mais je n'ai pas voulu le jeter à la rue et il a continué à habiter avenue de Messine, témoigne l'acteur. Trois jours avant cette première audition, le SRPJ de Versailles a reçu la visite du frère de Stevan Markovic, qui a remis trois lettres que celui-ci lui avait adressées avant de mourir. Elles sont traduites du serbo-croate. Markovic se dit menacé. Dans l'une d'elles, il écrit « Quoi qu'il advienne et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, il faudra chercher du côté d'AD, les initiales d'Alain Delon, et de son associé François, Marc, Anthony, trois prénoms, un Corse, est-il écrit, un vrai gangster. » Même si le nom de ce François, Marc, Anthony est mal orthographié, la police n'a pas de mal à identifier sous ce patronyme un truand de haut vol, ex-braqueur, officiellement retraité, le dénommé Marc-Anthony François, 48 ans. Marc-Anthony est un proche d'Alain Delon. Les deux hommes se connaissent depuis des années, à une époque où l'acteur faisait tout juste ses premiers pas au cinéma. Amitié, sans doute sulfureuse, mais revendiquée par Delon. De là à imaginer que l'acteur jaloux aurait fait tuer Markovic par l'entremise de son ami truand, certains journaux prennent un malin plaisir à le sous-entendre. Une campagne de rumeurs et de ragots enfle. Delon est à nouveau réentendu. Nathalie Delon également auditionnée, ainsi que Mireille Darc, qui depuis quelque temps partage la vie de l'acteur. Les journaux commence à faire les choux gras de ce crime qui éclabousse l'une des plus grandes stars françaises. Celui-ci publie un communiqué où il indique ne pas regretter avoir aidé son ami Stevan Markovic quand il était dans l'ennui. Il ne l'a plus revu depuis le 8 août. Ensuite, il était, dit-il, en tournage. François Marc-Anthony, questionné, dément toute implication. À sa sortie, il est placé en garde à vue pour une histoire de stup de la fausse héroïne. Histoire qui pourrait avoir un lien avec le dossier Markovic. Mais il est remis en liberté le soir même. Avec cette affaire à tiroir, ce fait divers mis en lumière par le nom célèbre d'une star de cinéma, la presse bouillonne. Les journaux vont alors égrener les pages vraies ou fausses des carnets de Markovic, où apparaîtraient des noms de personnalités haut placées, friandes d'orgies et de jeux sexuels en tout genre. Le 17 octobre 1968, moins de 10 jours après le meurtre de Stevan Markovic, l'hebdomadaire d'extrême droite Minute publie une double page barrée de ce gros titre. L'ami des vedettes négociait très cher des photos compromettantes. L'article évoque des soirées d'un genre un peu spécial dans une villa des Yvelines. Le défunt Markovic serait l'entremetteur de ces soirées qui ne sont en fait que des orgies, des parties fines où les notables aiment s'encanailler. Parmi les participantes, il y aurait même la femme d'un homme politique. Les autres titres de la presse ne sont pas en reste. François évoque les carnets annotés et photos compromettantes qui auraient été découverts lors de la perquisition dans la chambre de Markovic. Des adresses de gens du milieu, est-il écrit, voisines avec celles de vedettes, de personnalités du monde du théâtre et du cinéma. En plus d'Alain Delon, un défilé de célébrités du showbiz, Nicoletta, Marie Laforêt, le chanteur Guy Béard ou encore le réalisateur Jean-Pierre Melville vont être entendus. Le journal Le Monde parle alors de la promesse d'un scandale. Fin octobre, le juge René Patard, chargé du dossier Markovitch, se voit remettre une lettre interceptée par l'administration pénitentiaire. Elle est adressée à Alain Delon et signée d'un détenu de Fresnes, un Yougoslave nommé Boribos Akov. Lettre écrite en français alors que cet homme de 25 ans connaît à peine cette langue. Il dit à Alain Delon qu'il compatit après la mort de Markovitch. L'inspecteur Georges Manceau entend alors le détenu dans sa prison. Celui-ci fait des révélations fracassantes. Il confirme les parties fines organisées par Markovitch et les photos qui auraient été prises pour faire chanter les participants. Il aurait accompagné son compatriote dans une villa de Montfort-l'Amaury lors d'une partouze où s'est battée une femme célèbre, ni plus ni moins que l'épouse de l'ancien Premier ministre, en l'occurrence Claude Pompidou. Épouse de Georges Pompidou. Propos totalement invérifiables, tellement énormes qu'ils sont notés en marge du procès-verbal. L'inspecteur Manceau avertit son supérieur, le commissaire Sanson, lequel n'hésite pas à faire forcer le bureau de son subordonné en son absence pour s'emparer de ses notes manuscrites et les transmettre au ministre de l'Intérieur, lequel va communiquer ces informations explosives au garde des Sceaux, puis au Premier ministre, qui en informe le président de la République en personne, le général de Gaulle. En un mois, la mort du petit truand Markovitch ouvre la porte à un scandale d'État. Georges Pompidou va effectivement tomber des nues en apprenant que son nom et surtout celui de son épouse apparaissent dans cette nébuleuse affaire Markovitch. Il dira n'avoir pas songé une seconde à sa carrière, mais avoir tout fait pour protéger Claude Pompidou des attaques et des rumeurs. Le juge Patard, qui supervise les investigations, a bien du mal à travailler sereinement. Le parquet général et le ministère de la Justice s'intéressent à toutes les informations qu'ils pourraient recueillir. Le SRPJ de Versailles et le 36 quai des Orfèvres, brigade mondaine et brigade criminelle, sont soumis à la même curiosité venue du sommet de l'État. Sur le strict plan judiciaire, le magistrat a lancé le 16 janvier 1969 un mandat d'arrêt contre François Marcantoni. Il est convaincu de son implication dans le crime. Marcantoni est alors arrêté, inculpé de complicité d'assassinat et écroué. Le truand dément toutes les accusations. La suite semble toutefois donner raison au juge. À force d'obstination, les policiers ont remonté la piste de la double housse en plastique et en toile de jute, ayant servi à emballer le corps de Stevan Markovitch. Une double housse fabriquée par la maison Treka, du très haut de gamme, destiné à une clientèle fortunée. Il y a eu exactement 865 articles de ce genre vendus entre 1967 et septembre 68, juste avant l'assassinat. La liste des clients est épluchée. L'un d'eux n'est autre que le truand François Marcantoni. Le 16 avril, le juge ordonne une perquisition dans la villa de Marcantoni à Goussainville, à 34 kilomètres de la décharge où a été retrouvé le corps. Un matelas neuf de la marque Treka se trouve bien dans une chambre, mais la housse a curieusement disparu. Markantoni dit tout ignorer de ce qu'elle est devenue. Il reste sur ses positions et n'en changera pas. L'arrestation de François Markantoni, réduisant l'affaire Markovitch à un règlement de compte dans le milieu, ne parvient pas à désamorcer les rumeurs et les accusations visant le couple Pompidou. Le 4 mars, l'un des avocats de François Markantoni, maître Étienne Secaldi, demande l'audition de Claude et Georges Pompidou. Une nouvelle fois, cette demande fait la une des journaux. Un air est d'autant plus vicié dans cette affaire qu'une antenne du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, les services de renseignement français, aurait été à la manœuvre pour produire des montages photos mettant en scène Claude Pompidou, défaut destiné à nuire au couple présidentiel. Cette équipe du SDEC, baptisée Bison 6, aurait même demandé à un policier de l'anti-gang, Lucien Aimé Blanc, l'un des hommes qui traquera plus tard Mesrine, de trouver une grande femme blonde, la quarantaine, style grande bourgeoise, pour poser pour des photos. Certains clichés circuleront effectivement dans Paris, déposés notamment à des arrêts de bus. Des faux obscènes et grossiers, un montage effectué à partir d'une revue porno suédoise. Le visage de Claude Pompidou étant collé sur celui d'une protagoniste. Le bruit et les rumeurs vont finalement s'apaiser, laissant dans leur sillage l'odeur fétide de la calomnie. L'enquête va, elle, se poursuivre car l'assassin de Stevan Markovic n'a toujours pas été identifié. Le 29 août 1975, le juge d'instruction Jean Ferré, qui a pris la suite de son collègue René Patard, décide de renvoyer François Marcantoni devant une cour d'assises. Aucun témoin n'a désigné le truand comme étant impliqué dans la mort de Markovic. Les charges essentielles reposent sur la housse de matelas qui a servi à envelopper le corps de la victime. Marcantoni venait d'en faire l'acquisition dans un magasin spécialisé. À cette époque, le truand est toujours inculpé mais libre. Il est sorti de prison 7 ans auparavant après avoir réglé une confortable caution. Le parquet général et la chambre d'accusation considèrent que les charges sont insuffisantes. François Marcantoni ne sera donc pas renvoyé devant les assises pour y répondre de la mort de Markovic. Personne d'ailleurs ne sera jugé. Un an après le scandale, Georges Pompidou est élu président de la République. Il éprouvera un puissant ressentiment pour certaines personnes qui avaient voulu lui nuire, citant notamment le commissaire du SRPJ de Versailles, Jean Sanson, ou le juge René Patard. Pompidou dira avoir en permanence, dans la poche de son veston, un petit carnet où les noms de tous ceux qui désiraient l'abattre avec l'affaire Markovic étaient inscrits noir sur blanc. Personne ne sait aujourd'hui qui a tué Stevan Markovic. Aucune enquête n'est parvenue à le déterminer, même si François Marcantoni, aujourd'hui décédé, aurait longtemps fanfaronné en prononçant cette phrase. Il n'y a que 3 personnes qui connaissent la vérité, Delon, moi et Dieu. Propos provocateurs dont était coutumier le truand, des paroles en l'air totalement invérifiables.